13h02, affaire suivante, et pour m'accompagner cette semaine, pas de Dominique Rizet qui se repose, mais une Pauline Revenat, avec plaisir qu'on accueille. Bonjour Pauline, chef du service police-justice de BFM TV. C'était il y a 13 ans, jour pour jour, le 21 avril 2011, les corps d'Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît étaient retrouvés tués, dissimulés sous la terrasse du 55 Robert Schuman à Nantes. Débutait alors l'affaire du pont de Ligonnès, une des affaires judiciaires les plus fascinantes de notre histoire. 13 ans que les enquêteurs continuent de traquer Xavier Dupont de Ligonnès. Et cette semaine encore, eh bien, la justice a publié le résultat d'analyse ADN effectuée sur une canette il y a quelques semaines. Canette utilisée dans une communauté religieuse du Doubs. Certains pensaient avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès. Pourquoi chaque signalement est-il pris au sérieux? Comment enquête encore aujourd'hui la police sur Xavier Dupont de Ligonnès? Tous les détails avec nos invités dans un instant, mais d'abord retour sur cette impossible traque avec Emeline Darcourt.
5 corps sous la terrasse du 55 boulevard Maurice Schuman à Nantes, celui de sa femme et de 4 enfants de 13 à 20 ans qui ne donnaient plus signe de vie depuis une quinzaine de jours. Mais aucune trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Parmi les dernières images du père de famille, un retrait au distributeur de Roquebrune-sur-Argens dans le Var le 14 avril. Dans cette région montagneuse, boisée, creusée de galeries bien connues de Xavier Dupont de Ligonnès, des recherches d'envergure commencent. Elles se poursuivent malgré les mois qui passent, comme ces fouilles d'anciennes mines de charbon en 2013 ou celles d'un campement dans la forêt où des ossements humains ont été retrouvés.
Nous ne savons, à l'heure à laquelle je vous parle, rien sur l'identité de cette malheureuse personne qui est morte là-haut.
Les analyses montrent qu'il ne s'agit pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Les signalements se multiplient. Il aurait été aperçu dans ce monastère de Roquebrune-sur-Argens.
On est 5 ici, mais on n'est jamais plus de 5.
Vu dans un avion en partance pour l'Écosse avec des empreintes digitales qui correspondent en partie. Fausse piste. Des recherches dans une abbaye traditionnaliste sont vaines, elles aussi. Dernière rencontre présumée, le mois dernier à Montferrand-le-Château, l'ADN recueilli sur la canette d'un vagabond dans ce couvent n'est toujours pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès. 13 ans après sa disparition, l'enquête compte 900 signalements. Un mandat d'arrêt international délivré en 2011 est toujours en vigueur et toutes les pistes restent ouvertes.
Le mystère perdure et une piste de plus s'est refermée cette semaine. On va essayer d'analyser tout ça avec nos invités. Alain Bauer, bonjour. Bonjour. Vous êtes évidemment professeur de criminologie au CNAM, responsable du pôle sécurité défense, auteur notamment du livre Au bout de l'enquête, saison 2 aux éditions First. À vos côtés, Valentin Collin, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice à l'Est républicain et c'est vous qui aviez sorti ces informations qui ont conduit à ces analyses ADN. On va commencer par là. On va reprendre cette dernière piste, évidemment. Une de plus. Racontez-nous, on est à Montferrand-le-Château, c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, le 9 mars, il y a une personne qui va se présenter à la communauté des Sœurs de Béthanie. Donc c'est à Montferrand-le-Château, c'est un couvent qui a été créé par le Père Lataste et qui œuvre pour réinsérer des personnes qui ont commis des délits, en fait. Ouais. Et une de ces personnes va se présenter à une veillée de prière accompagnée d'un vagabond, comme vous l'avez très bien dit. Et cette personne va indiquer qu'il marche sans but, sans identité sur les chemins de France. Donc il va passer une première nuit à Montferrand-le-Château entouré de ces personnes. Et il va être hébergé une seconde nuit à Montferrand-le-Château, toujours chez une autre fidèle, avant de reprendre les chemins le 11, tout simplement.
Et là, il y a des gens qui vont penser que c'est Xavier Dupont de Ligonnès, qui vont dire, mais en fait, on le reconnaît.
Ah, tout à fait. Alors, il faut savoir que au même moment, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès sort un livre, Christine Dupont de Ligonnès, sur son frère. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on voit à nouveau Xavier Dupont de Ligonnès sur toutes les télés de France. Et voilà, on pense que ces personnes-là ont vu à nouveau et peut-être que ça a donné une appétence pour le reconnaître. Et elles vont se dire que cette personne, effectivement, correspond en tout point à cet homme.
Alors, je parle sous votre contrôle. Il y a donc 3 personnes qui le reconnaissent. Est-ce qu'il y a des ressemblances physiques? Et Alain Bauer, est-ce qu'on peut parler d'une projection collective dans ces cas-là? Effectivement, réminiscence, on le voit partout. Du coup, on a l'impression de le voir à tout endroit.
Alors, en général, le premier, il y croit vraiment. Et les autres, parce que le premier y croit vraiment, le ou la première d'ailleurs, décide unilatéralement que, bah oui, pourquoi pas, peut-être. Et donc, vous avez un phénomène de... Alors, souvent, c'est de la psychose collective, ce qui n'est pas le cas hein, dans ce cas précis.
C'est la projection, là.
Un phénomène de projection et de, bah oui, pourquoi pas, après tout, ah oui, en y repensant. Puis, ça, c'est un peu comme quand on semble reconnaître quelqu'un qu'on a en fait vu par ailleurs et que la coïncidence de l'événement, c'est le cas notamment des faux témoignages, des vrais faux témoignages. Mm-hmm. Je crois vraiment que la personne que je reconnais dans la présentation est le bon, parce qu'en fait, j'ai vu un reportage où il y avait une photo qui n'a rien à voir avec ce qu'on se passe. Mais en fait, voilà, c'est un peu comme si on nous confondait juste parce qu'on a le même coiffeur, pardon.
Voilà. C'est très illustrant.
Oui, c'est très illustrant.
C'est très clair. Ouais. Du coup, ils vont quand même, les enquêteurs vont se saisir de ces signalements. On va donc saisir une canette, je parle sous votre contrôle, et on va conduire des analyses ADN. C'est cela dont on a eu le résultat cette semaine.
Voilà, exactement. Alors, ils ont saisi plusieurs objets, des canettes, des verres dans lesquels cette personne a bu, et ça va être envoyé à l'IRCGN, qui ont mené des investigations ADN.
L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale.
Pontoise.
Voilà, à Pontoise.
Tout à fait.
Qui a mené des recherches ADN, et les résultats viennent de tomber, effectivement. Ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès qui est venu ce soir-là à Montferrand-le-Château.
Est-ce qu'on est vraiment déçu?
Alors, à chaque fois, à 99,9%, les enquêteurs vous disent effectivement, c'est pas lui. Mais
sauf qu'ils ont une obligation, pardon, de vérifier.
Tout à fait. Et il y a toujours un mais dans leur esprit, ce petit 0,1% qui leur dit, et si c'était lui? Et j'en discutais la semaine dernière avec un gendarme qui me disait, peut-être qu'un jour, si Xavier Dupont de Ligonnès est encore en vie, peut-être qu'on pourrait l'avoir de cette façon-là.
Ils ont une obligation, Alain Bauer, comme le disait Pauline, de tant tout traquer
est, tant que l'affaire n'est pas cassée, et même si elle l'était d'ailleurs, l'idée que le poids dans l'opinion publique de cette affaire amène mécaniquement à, faute de corps, à chercher le vivant. Ou à trouver un cadavre qui permettrait de faire la même étude que ce qu'on avait vu pour le petit Émile Soleil, par exemple, qui a été de dire, eh bien, on va vérifier. Alors là, l'obligation était encore plus forte car le délai était moins long. Là, je vous rappelle que c'est une affaire qui date de 2011.
Oui, 13 ans.
Donc ça fait.
Et d'ailleurs, le signalement n'était pas non plus farfelu, parce que c'est une communauté religieuse.
C'est un des sujets récurrents sur lesquels on le voit dans à peu près toutes les communautés religieuses possibles et imaginables, et où il y a, soit la personne est toujours là et ça n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, soit elle est passée et des éléments permettent d'indiquer que non, ça n'est pas possible. Mais il faut se rappeler que dans cette affaire depuis le début, au-delà de toutes les élucubrations, les folies, les projections et le reste, il y a un sujet. Dans la quasi-totalité des meurtres familiaux, le meurtrier meurt avec sa famille ou se rate à côté de sa famille ou reste à côté de sa famille et assume. Il n'y a qu'un cas connu où ça n'est pas arrivé, c'est un cas américain où, 15 ans après, je crois, on retrouve le meurtrier vivant,
qui a refait sa vie.
Ayant refait sa vie, parce qu'il est un pur meurtrier et pas dans un délire psychotique, etc.
Donc on
est
dans un
sujet qui est, tant qu'on n'a pas découvert son cadavre, l'option « il est vivant » est plus vraisemblable qu'une autre.
Oui, mais là, est-ce que c'est l'hypothèse, tous les deux, je vous pose la question très ouverte, est-ce que c'est l'hypothèse la plus crédible, selon vous, que Xavier Dupont de Ligonnès se trouve quelque part en vie?
Alors,
vous êtes
à défaut d'autre chose, la plus crédible.
Et vous,
pas
Valentin?
La seule, la plus crédible.
Moi, je vais être à la fois, il y a tellement d'hypothèses qui penchent pour le suicide. On a tous regardé un nombre de documentaires assez incroyable. Et à la fois, effectivement, est-ce qu'on ferait tout ça pour se suicider?
Sauf que dans tous les cas de suicide, c'est à proximité ou sur place. Le problème, c'est que on a des critères assez simples. Oui, pourquoi? Mais s'il se suicide, il le fait en direct, sur place, à côté, à proximité, dans un lieu qui permet de le retrouver, car le suicide est une forme d'expiation qui permet de dire « j'ai tué, mais je me suis éliminé ».
Surtout dans les valeurs judéo-chrétiennes.
Et même quand on a récemment un homme qui tue ses enfants, il se rate, mais à proximité. On est toujours dans cette logique. Nous n'avons pas quasiment pas, je suis toujours prudent parce que en cherchant bien quelque part, voilà. Le seul contre-exemple connu, structuré, il est vivant, il a refait sa vie, il a changé d'identité, il a été retrouvé par hasard, par bonheur, par chance.
Suite à une émission.
De recherche. Et donc, faut toujours être très prudent. Ça n'est pas la seule hypothèse. Je ne dis pas que j'y crois plus qu'une autre. Je dis que la plus crédible est, comme il n'est pas mort, il est vivant.
D'accord.
Comment on a réagi localement quand il y a ces signalements? Est-ce que tout d'un coup, ça monte en pression et tout le monde se dit, ça y est, on a Xavier Dupont de Ligonnès? Comment ça se déroule?
Alors, au début, je pense que tout le monde a un sourire aux lèvres parce que des signalements, il y en a eu des centaines, voire des milliers. Mais Bon, comme les
je crois qu'il y en a eu plus de 2000 pour être
précis. Il y en a eu 2000, hein, ouais. C'est ça. Mais plus les éléments sont mis à jour par les enquêteurs, le côté spirituel, ça c'est vraiment quelque chose depuis le début de l'affaire. Hein. Les enfants ont été enterrés avec des petites
des
crucifix, des vierges. Voilà, donc ça depuis le début, c'est une piste qui est vraiment plausible pour les enquêteurs. Ouais. D'ailleurs, en 2018, à Roquebrune-sur-Argent, lors des perquisitions, oui. Les enquêteurs ont vraiment cru qu'ils allaient tomber sur David Dupont de Ligonnès. Donc effectivement, au niveau local, plus les jours avancent, plus on se dit ça peut sentir bon. Voilà, c'est effectivement.
Et quand c'est comme ça, il y a un mécanisme qui s'enclenche. C'est-à-dire que, bon, on l'a vécu hein, avec la dernière personne interpellée qui n'était pas lui. Il y a une impatience autour de cette affaire.
Bah, c'est-à-dire que les policiers et les gendarmes souhaiteraient finir avec cette affaire qui les poursuit. C'est un peu comme l'affaire du petit Grégory. Hein.
Oui. Sauf qu'elle continue à durer, l'affaire du petit Grégory.
Oui, mais hein. C'est ce que je dis. Ouais, c'est la même chose. L'affaire du pont de Ligonnès continue à durer. Donc l'idée que tout d'un coup, va y avoir l'ADN sur le timbre, qui n'y est pas, l'ADN sur la cordelette, qui n'y est pas non plus, mais pendant ce temps-là, ben, on se dit, enfin, va y avoir un... Et là, on réinterpelle quelqu'un qui aurait pu parler, mais qui n'a pas parlé, parce que la garde à vue s'est interrompue un peu trop tôt. Mais cette fois-ci, peut-être que... Et donc, on se fait un sketch. Et en fait, il faut comprendre que le feuilletonnage criminel est né en France au moment de l'affaire Troppmann, en 1869, au moment où un journal en a fait un feuilleton pour se vendre mieux, mais aussi parce que les rebondissements de l'affaire permettaient tous les jours de créer un priorité au direct qui permettait de dire il se passe un truc, donc on va regarder. Et vous l'avez dit, 2000 signalements. Heureusement, personne n'a fait 2000 fois, on arrête tout et ça y est, il y a eu une affaire. Mais sur celles qui sont les plus crédibles ou les moins incrédibles, il dit à juste raison que le rapprochement entre une communauté religieuse, si possible assez intégriste,
enfin, supposément, ça crédibilise,
supposément, avec un vagabond qui irait sans but de ci, de là, pourquoi pas ? Et donc, évidemment, ça crée cet engrenage qui permet cette accélération des événements. Les policiers se disant « chouette, on y est arrivé », les journalistes faisant leur métier d'informer en disant « il se passe quelque chose ». Et d'ailleurs, on leur reprochait de ne pas le faire. Hein. Je ne suis pas du tout en train de faire la critique du sujet. Nous, parce que du coup, on vient expliquer que oui, mais non, c'est pas aussi simple que ça, avec vous d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc, tout ceci permet de comprendre pourquoi on doit le faire.
Bien sûr.
Pourquoi il y a une telle surexposition médiatique ? Parce que l'affaire a eu un écho beaucoup plus important. Vous voyez, vous parliez d'au bout de l'enquête tout à l'heure. Au début, on se racontait ça avant. Sur les 108 premières affaires, la moitié sont totalement inconnues du grand public. Ouais. Totalement. Elles n'ont jamais fait l'objet d'autre chose que peut-être d'une page dans le quotidien régional, mais il n'y a pas eu de surexposition médiatique. Et l'autre moitié, c'est la surexposition médiatique. Ouais. En fait, elles fascinent tout autant les unes que les autres, mais il faut qu'il y ait des rebondissements.
Sur cette affaire, il y a des signalements, on va prélever, on a l'obligation de le faire. Que font d'autres, les enquêteurs, 13 ans après ? Comment on travaille sur une affaire qui a 13 ans ?
Ah ben, d'abord, quand elle est aussi vivante que celle-là, parce qu'une affaire, c'est soit vivant, soit mort. Ouais. Or, dans beaucoup d'affaires, vous verrez tout à l'heure dans l'affaire Dino Scala, l'affaire suivante, à quel point un rebondissement nouveau fait qu'une affaire qu'on croit totalement classée, qui a été jugée définitivement, l'accusé a reconnu, pas tous, mais une partie des faits, le fait de retrouver tout d'un coup une victime qui sort du cadre traditionnel, on repart. Donc, il y a toujours des équipes qui soit reprennent les dossiers, parce qu'ils sont pas vraiment totalement finis, soit continuent à les expertiser. On a dans les affaires Fourniret, par exemple, des dossiers qui ne sont toujours pas clos. Fourniret est mort, il ne sera plus jamais condamné pour ça, mais Monique Olivier est là, alors de temps en temps se dit oui, peut-être, mais oui, mais non, elle va le faire, elle va pas le faire. Et donc, vous avez soit une sorte de permanence pour des affaires extrêmement sensibles, soit désormais, depuis la création du pôle Colquet, c'est vrai, mais c'était déjà vrai à la gendarmerie avant, dans les petites unités spécialisées de suivi des affaires froides, très froides ou très très froides, une capacité à garder désormais la mémoire, à ne rien classer définitivement et surtout à garder de l'expérience et de la compétence sur les affaires dites complexes, sérielles ou exceptionnelles. Donc, ils continuent à travailler, à emmagasiner des éléments et puis quand il se passe quelque chose, à ressortir un dossier, non pas du 8e sous-sol d'un truc qui a été inondé 3 fois et mal classé, mais des dossiers vivants, gérés, informatisés, avec des outils d'intelligence artificielle de plus en plus perfectionnés. Ils ne remplacent pas le cerveau des enquêteurs, mais ils accélèrent leur capacité à, et donc ça aide.
C'est justement le regard neuf aussi de certains enquêteurs qui peuvent poser sur ce dossier, qui peut réussir à débloquer des choses. Ce qu'on sait, c'est que la dernière image de Xavier Dupont de Ligonnès est une trace numérique. C'est cette vidéosurveillance à Roquebrune-sur-Argent. On est entre le 14 et le 15 avril.
Dans le bar.
Exact. Et ensuite
très loin de Nantes.
Voilà. Ça, c'est la dernière trace numérique.
Et c'est l'indication la plus probable de pas de suicide, pas d'élimination, la fuite, parce que c'est très loin, parce que ça n'a rien à voir avec aucun des cas précédents, et parce que cette anomalie dans son comportement dans un assassinat familial semble privilégier l'hypothèse de la fuite plutôt que du suicide.
Factuellement, il a probablement une arme sur le dos. Mais ça,
il a un sac à...
On suppose qu'il a quelque chose.
Un dernier petit mot de tambouille interne, mais parce qu'il est intéressant, Valentin, quand on traite une affaire avec tout le poids qu'il y a derrière et qu'on a une info comme ça et qu'on va la sortir, on s'y prend à plusieurs fois pour vérifier, recouper, se dire j'y vais pas. On avait tous cru retrouver Dupont de Ligonnès il y a quelques temps.
Bien sûr, ouais, il y a un vrai traumatisme Dupont de Ligonnès dans la presse. Depuis Glasgow, on s'en souvient tous. Voilà, aujourd'hui... D'autant que c'est des enquêteurs locaux, là on parlait d'enquête, c'est des enquêteurs locaux qui ont mené les investigations, c'est pas les policiers de la PJ de Nantes qui sont venus à Besançon, c'est la brigade des recherches de Besançon, et je leur rends hommage, qui ont mené ces investigations. Donc évidemment, voilà, même eux avaient des photographies, hein, il y a des photographies, là on le voit à l'image, mais eux avaient des photos que les fidèles avaient prises de cet homme-là. Et effectivement, nous, en le sortant, eh ben, on s'assure auprès du procureur de la République de Besançon que l'enquête tient, on essaie de recouper avec un maximum d'enquêteurs, en leur demandant leurs avis, hein, en disant mais est-ce que c'est complètement farfelu, est-ce qu'on... Bon, voilà, 99,9%, effectivement, c'est pas lui, mais il y a toujours cette infime
chance.
Après,
rien que le fait qu'il y ait un signalement, c'est une information.
Rien que le fait, nous, c'est le deuxième dans le Doubs. Il y en avait déjà un en 2020, je crois. Un SDF à Pont-de-Roide avait été aperçu dans la rue. Quelqu'un lui avait payé un café. Ça tenait pas du tout. Là, ça tenait beaucoup plus. Donc, effectivement, voilà, il y a un travail d'investigation, de recoupement. Et derrière, on sort ce dossier. Ouais.
Moi, je voudrais rendre hommage à la qualité du travail des journalistes de la presse quotidienne régionale.
C'est vrai.
Parce que dans toutes les affaires que nous traitons, que nous essayons de décrypter, de montrer, de faire de la pédagogie d'affaires, ce que vous faites ici aussi, eh bien, ils sont les éléments les plus importants de l'environnement, de la précision, du détail de l'enquête, et ils sont absolument indispensables à la connaissance des faits. Je profite parce que
vous avez bien raison, et c'est pour ça qu'on les invite. Valentin, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, Valentin.